France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Artiste phare de la création contemporaine, il est exposé aux quatre coins du monde, mais il vit dans sa vallée qu'il a replantée en Vendée, vallée qui inspire apocalyptique son exposition à la galerie Agnès Obadia en ce moment à Paris. Fabrice Hibert sera mon invité à partir de 13h. Mais tout de suite, on critique et en plus on aime ça. Aujourd'hui, deux livres au menu de cette édition, deux livres qui nous emmènent en Amérique latine, avec d'abord un regard de l'intérieur, celui de la mexicaine Fernanda Melchor, dont le premier recueil de nouvelles, Ici c'est pas Miami, est enfin traduit en français. Et puis un regard de voyageur, celui de François-Henri Désérable sur les traces de Che Guevara, dans Chagrin d'un chant inachevé. Vous écoutez les Midi de Culture, voyez-vous ça. Et pour en parler autour de la table aujourd'hui, Johan Farber, éditeur, essayiste et critique littéraire, bonjour.
Bonjour Marie.
Virginie Bloch, l'aînée, productrice à France Culture, critique littéraire et romancière, bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux. Elle est devenue une des figures de proue de la littérature contemporaine latino-américaine. Ses deux premiers romans, La saison des ouragans et Paradise, disponibles chez Grasset, sont ancrés dans la violence qui saigne son pays, le Mexique. Cette acuité, cette urgence est en partie dans son expérience de journaliste que Fernanda Melchor les a puisés. On le comprend en lisant Ici, c'est pas Miami, qui est en fait son tout premier livre, paru en 2013 là-bas, et qui nous arrive aujourd'hui enfin traduit par Laure Alcoba, toujours chez Grasset. Ces 12 nouvelles ont été publiées dans la presse entre 2002 et 2011. Et comme ces deux romans, c'est Veracruz, sa ville natale, qu'elle raconte. Veracruz, minée par la pauvreté, les violences faites aux femmes, le narcotrafic. Veracruz, la ville aux mille histoires. On commence avec un avis rapide, Johan Farber.
Oui, alors moi, je ne connaissais de Fernanda Melchor que La saison des ouragans et Paradise, qui ne m'avait pas vraiment séduit. J'y trouvais une prose déjà un petit peu fatiguée. Et là, ça a été pour moi une heureuse surprise, parce que, notamment, il y a une préface extrêmement intéressante et pertinente sur la manière de construire son récit, et sur ce qu'on appelle la chronica, cette espèce de journalisme littéraire dont moi, je me méfiais un peu beaucoup, parce que je trouve qu'on le met un peu à toutes les sauces et que cette non-fiction commence à être un petit peu éculée. Et là, je trouve qu'il y a une véritable proposition, notamment sur la construction de personnages comme autant d'expériences politiques. Et ça m'a énormément surpris et séduit.
Virginie Bloch-Lenné.
Alors, Johan a parlé de la préface. Moi, ce livre, dès la préface, ne me convainc pas. Je ne comprends rien à cette préface. Elle dit il y a de la subjectivité, mais ce n'est pas de la fiction. Je ne sais pas si elle veut faire de la fiction, pas de la fiction. Elle dit qu'elle va mettre beaucoup de détails. Je trouve que dans ces textes, il manque des détails. Le problème qui me pose, c'est qu'elle a une écriture blasée. Elle est née à Veracruz et c'est ça, moi, qui m'a manqué. Elle connaît par cœur et elle nous livre quelque chose qui pour elle est quotidien et je n'ai pas réussi à être surprise.
Alors, on va continuer à discuter évidemment, mais avant d'aller plus loin, on écoute un court passage d'Ici, c'est pas Miami, lu par Oriane Delacroix.
Au début des années 90, Playa del Muerto était tout juste une bande de sable gris située dans le chef-lieu de Boca del Río, ville jumelle de Veracruz. Ses dunes brûlantes étaient couvertes de buissons remplis d'épines où restaient coincées les branches pourries et les bouteilles en plastique que le fleuve charriait depuis les montagnes par temps de crue. Ce n'était pas une plage très fréquentée, ni spécialement belle, si tant est qu'il existe une plage qui le soit vraiment dans cette partie du golfe du Mexique, et il y avait des moments, particulièrement lors de la pleine mer ou durant les tempêtes, où elle disparaissait. Même les brises-lames ne pouvaient pas empêcher les vagues d'envahir la route reliant les deux villes. Les gens du coin l'évitaient.
Ici, c'est pas Miami, recueil de nouvelles de Fernanda Melchor. Johan Farber, en quoi elle renouvelle, du coup, pour vous, ce journalisme littéraire dont vous vous méfiez?
Oui, alors moi j'ai été très séduit par cette préface parce que elle pose en fait comme une sorte de poétique du récit qui au départ paraît assez complexe, mais en fait elle pose un principe au départ de ces chroniques qui, comme vous l'avez rappelé, se centrent autour d'une ville. Donc il y a une unité de lieu, il y a une unité de temps, ça se passe souvent aussi la nuit, et puis il me manquait une unité d'action, et c'est finalement en fait la clé de ces 12 chronicas sont données en fait comme une sorte de mode d'emploi un peu peu en décalé, dans cette préface qui pose tout de suite l'idée que la ville, une ville, n'importe quelle ville, est remplie d'histoire. Mais à partir de là, elle dit que la ville pose un problème, il y a une contradiction interne, c'est que la ville cherche à faire taire ses histoires. Et le but du romancier, celui qui fait la chronica, est de redonner voix, en fait, à ces histoires qui sont générées par la ville, mais qui sont tues. Sauf que, nouveau problème, c'est que, contrairement à ce que le journaliste croit, le journaliste littéraire croit, c'est qu'on ne peut pas croire le langage. Il y a une subjectivité dans le langage qui, en fait, désoriente tout ce que l'on peut dire et qui met, en fait, à distance la question sur laquelle se fonde le journalisme littéraire, à savoir le rendu de la vérité, le rendu de la réalité. Et c'est donc armé de toutes ces précautions, de tous ces paradoxes qui fournissent déjà une sorte de dynamique narrative qu'on aborde ces chronicas et qui sont toutes, plus ou moins, à plus grande échelle, certaines davantage que d'autres, obsédées par la question du récit. Elle raconte notamment comment son premier mari, elle a pu tomber amoureux de lui parce que précisément, il savait raconter une histoire. Et elle, elle est dans cette impuissance à raconter cette histoire. Et moi, ce qui m'a assez surpris, je dirais positivement, c'est que contrairement aux deux romans précédents, qui ont suivi celui-ci, ce recueil, autant je trouvais les romans ancrés dans une violence un petit peu archétypale qui n'était pas assez interrogée, autant là précisément, je suis entièrement d'accord avec Virginie, on n'arrive pas vraiment à voir ce Veracruz violent parce que il y a une sorte de pas de côté par rapport au reportage pour se concentrer sur l'art de la narration, mais un art de la narration qui serait vivant. Alors il y a un côté déceptif, évidemment, puisqu'on n'a pas la restitution de ce que promet le livre, à savoir les narcotrafiquants. Et en fait, ici, tout le livre est à considérer à l'image de la première chronica qu'on vient d'entendre lue par Oriane Delacroix, à savoir, elle croit enfant sur cette plage que c'est une soucoupe volante et elle découvre en fait que c'est un avion de narcotrafiquants. Et tout est en fait un jeu d'illusions et de désillusions auxquelles s'articulent toutes ces chronicas, c'est-à-dire finalement le contraire d'un journalisme littéraire qui serait ancré vers la découverte d'une vérité insubmersible, indépassable. Et je trouve que c'est très courageux et assez intéressant de voir cette mise en dynamique et qui, moi, m'a totalement surpris par rapport, je le dis, notamment aux deux précédents ouvrages dont Paradise, notamment, et la saison des ouragans. Voilà, moi, c'est ce qui m'a vraiment intéressé. Et puis, le statut du personnage, dont elle parle aussi, le personnage, à chaque fois différent, son unité, je dirais, d'action, c'est chaque personnage est affecté par une réalité qu'il voit. Et la violence de la réalité est telle qu'elle ne reste pas à l'extérieur de lui, mais qu'elle l'affecte intérieurement, notamment la chronica qui donne le titre à l'ensemble du recueil. Ici, c'est pas Miami. On voit effectivement ces réfugiés dominicains et celui qui se trouve sur la plage avec eux se voit totalement affecté par une histoire qui n'est pas la sienne. Et j'ai trouvé que là, il y avait une vraie proposition politique plus forte que on peut imaginer, à savoir comment on peut être affecté par cette réalité. Et puis, ce qui m'a paru intéressant aussi politiquement, c'est que à l'heure où une partie de l'extrême droite en France parle d'une mexicanisation du débat public, de la vie, de la violence, on voit que ça se joue en fait au Mexique, ça se joue de manière totalement, je dirais, par une sorte de feuilleté de violence, et que les choses sont évidemment beaucoup plus complexes que ce terme de mexicanisation voudrait le réduire.
Virginie Bloch-Lenné.
Alors, le journalisme littéraire, moi, je l'aime beaucoup et beaucoup d'auteurs assument la part de subjectivité. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas, je trouve, contrairement à ce que pense Johan, d'art du récit. Je trouve qu'elle ne sait pas raconter. L'histoire que lui raconte l'homme qui est devenu son premier mari est une histoire de maison hantée. Plusieurs fois, j'ai dû revenir en arrière pour comprendre. On est perdu. Je trouve qu'il n'y a pas d'énergie. Ça tient à ce côté blasé. Elle connaît tellement Veracruz. Elle en connaît la violence. On a l'impression que c'est une ville un peu désertée. D'ailleurs, il y a une nouvelle où elle explique qu'il y a un quartier fantôme, le centre dans lequel elle a vécu. Et l'impression que j'ai en fermant ce recueil, c'est que la ville, c'est une ville de fantômes. Tout ce qu'elle raconte date parfois des années 80, même avant 70. Et j'ai l'impression qu'il ne se passe plus rien à Veracruz. Or, j'étais très curieuse. J'aime Jeannette Malcolm. J'aime beaucoup un écrivain qui s'appelle Geoff Dyer, qui fait du journalisme littéraire un peu partout, en Grande-Bretagne ou en Amérique. J'étais curieuse de ses textes sur l'Amérique, sur ce pays d'Amérique centrale. Là, je ne le sens pas. Et c'est sans doute bon, ce côté blasé, plat. Et il y a aussi Fernanda Melchor, c'est une écrivaine rock. Lorsque Paradise est sorti chez Grasset, où Virginie Despentes est éditée, il y avait une phrase pour la mettre en valeur de Virginie Despentes. Mmh. Et c'est peut-être ce côté rock qui fait qu'elle, je sais pas, elle ne soutient, elle nous livre les histoires un peu comme ça et à nous de nous débrouiller. Je trouve pas qu'elle construise des personnages. Ces Dominicains qui arrivent en pensant être arrivés à Miami alors qu'ils sont à Veracruz. Elle n'en fait pas grand-chose. Il y a une nouvelle qui aurait pu être très bonne, où elle raconte un fait divers, une femme qui, après avoir été une reine de beauté, a assassiné ses deux fils, les a découpés et les a mis dans des pots de fleurs. Et c'est son frère qui a senti une odeur bizarre, qui a remarqué que ses neveux n'étaient plus là, et puis il a senti l'odeur des cadavres. Elle raconte cette histoire, mais elle ne donne pas assez de détails sur cette femme. C'est linéaire, voilà, c'est linéaire, et ce qui aurait pu être une très bonne histoire ne l'est pas vraiment.
Écriture blasée, Johan Farber.
Alors moi, je suis d'accord avec l'écriture blasée. Ouais. J'ai vraiment trouvé à l'œuvre dans Paradise et La Saison des Ouragans. Vraiment, je suis entièrement d'accord parce qu'il y avait comme une sorte de fatigue à raconter que je n'ai pas trouvé personnellement dans Ici, c'est pas Miami, parce que précisément pour reparler de cette nouvelle que vous évoquiez à l'instant, de cette reine de beauté qui pour moi est la meilleure nouvelle du recueil, de très très loin.
La moins mauvaise.
Mais qui est vraiment, je dirais la plus intrigante. En fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre de ne pas lever le mystère et en fait de revenir à une sorte de réalisme fantastique. Et ça, je suis entièrement d'accord aussi sur la manière dont tout est spectral, dont il n'y a que des maisons hantées. D'ailleurs, il y a une maison hantée. Il y a tout cet épisode avec cette jeune femme qui est prise par un esprit. On va voir des exorcistes, etc. Donc là, il y a quand même toute cette dimension fantastique et c'est une dimension fantastique qui justement moi m'a intéressé parce que je trouve qu'elle ne folklorisait pas le Mexique comme ça peut être le cas dans Saison des Ouragans ou Paradise, où je trouve que tout ce qui était autour des narcotrafiquants était un petit peu quand même viriliste, faut quand même le dire, avec une écriture un petit peu viriliste, alors que là je trouve qu'il y a beaucoup plus de méfiance à l'égard de ce qu'elle peut raconter, de méfiance à l'égard des faits, avec beaucoup plus de doutes. Et je trouve que cette démarche qu'elle explicitait dans la préface, à savoir de cette ville qui propose l'histoire et qui les retire en même temps, aboutit finalement à un questionnement qui est celui de qu'est-ce qu'une légende urbaine. C'est-à-dire que Veracruz, c'est une ville qui est traversée par le vent, frappée par le soleil, mais aussi dans les rues desquelles courent des légendes urbaines qui sont autant de fantômes dont elle essaie de se saisir. Et je suis assez d'accord, donc parfois elle ne parvient pas à le faire, mais c'est justement toute cette dynamique qui fait l'ambiguïté et la richesse d'un récit qui n'est pas finalement aussi plat que les lignes claires à travers lesquelles elle dessine l'action dans les deux romans qui vont suivre.
Virginie Bloch-Lenné, vous disiez que pour vous, la préface n'a pas servi d'éclaircissement, de programme, on va dire.
Pas du tout. J'ai l'impression qu'elle fait des têtes à queue tout le temps dans cette préface. Je ne sais, elle dit, la fiction. Enfin, je ne sais pas comment elle se place par rapport à la subjectivité que beaucoup de journalistes ou écrivains qui font du journalisme littéraire assument. Elle dit ce qu'on n'aura pas. On n'aura pas de l'histoire avec un. Elle l'écrit avec un grand H. Les sensations qui ont été celles de ceux qui furent témoins de l'histoire. Or, ces sensations à elle, on les a un petit peu dans l'histoire de son mari, oui, qui lui raconte une histoire de maison hantée, mais on ne les a pas vraiment. Elle dit qu'elle a habité un quartier qui est vidé de ses habitants, le quartier de la Loterie Nationale, mais elle ne sent pas la ville, elle ne nous la fait pas sentir. Donc cette préface, il y a un chaos plat. En fait, voilà, ce livre, le Mexique, c'est le chaos, mais là, je trouve que c'est un chaos plat. Je ne sens pas non plus ce qu'est Veracruz. Elle dit que c'est le plus grand port du Mexique, ce qu'est Veracruz par rapport aux autres grandes villes de cet immense pays qu'est le Mexique. Je ne la vois pas, je ne la sens pas.
Johan Farber ?
Bah, moi, je trouve que, en tout cas, cette préface, moi, personnellement, j'allais recommander la lecture de cette préface à tout le monde.
Dit-il avec un air gourmand.
Voilà, exactement. Mais non, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, précisément, il y a une mise en tension. Et que, il n'y avait pas cette escorte théorique dans ses livres suivants. Et là, elle donne quand même des clés, notamment sur la mythologisation du réel, sur la fabrique du récit, sur la manière dont elle-même, comme je disais tout à l'heure, est un peu empêchée par, effectivement, sa propre subjectivité. Et Virginie a absolument raison. Ce qui est très étonnant, c'est qu'elle ne se met pas en scène dans le récit et qu'elle est souvent spectatrice, elle tend le micro. Et je trouve que cette qualité d'effacement, qui est propre au journalisme littéraire, elle invente strictement rien, mais elle donne justement une coloration à ces récits dont on attendait finalement plutôt un Mexique de carte postale et qu'elle déjoue assez, pour ma part, je trouve, assez habilement.
En fait, il n'est pas très bien vendu, ce livre, parce qu'en fait, il n'est pas ce qu'il annonce être.
Il n'est pas du tout ce que la couverture, la jaquette pelliculée essaye de nous véhiculer d'ailleurs, c'est-à-dire pour les auditeurs qu'il se représente, un véhicule en feu. Voilà, là on a plutôt l'impression que c'est vendu comme un épisode de Narcos, ouais. Et c'est pas du tout ça. Ce serait plutôt justement quelque chose d'assez spectral. C'est vraiment un Mexique spectral et non pas un Mexique mitraillette au poing et sombrero traversé par les balles, quoi.
Mais moi, Narcos, ça m'irait. Il y a une nouvelle où elle commence à parler d'un gros trafiquant de drogue. Je me léchais les babines. Elle va nous raconter son histoire, mais non, elle raconte autre chose. Et donc, ça m'aurait été. Et contrairement à ce que vous avez dit, Johan, moi, je trouve qu'elle folklorise un peu avec des noms, des surnoms. Le diable, je sais plus. Enfin, il y a des personnages qui ont des noms de légendes. Mmh. Parce que c'est peut-être là qu'elle met de la fiction. Elle les fait pas exister tels qu'ils sont réellement.
Ici, c'est pas Miami de Fernanda Melchor chez Grasset, traduit de l'espagnol par Laure Alcoba.